Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Voilà la réponse de notre Seigneur aux disciples de Saint Jean-Baptiste pour attester sa messianité et sa divinité. L'argument principal que donne notre Seigneur pour nous prouver qu'il est le Messie, ce sont les miracles qu'il a accomplis. Ils sont en même temps la réalisation d'une prophétie d'Isaïe. En effet, le prophète Isaïe avait donné ces mêmes miracles comme l'une des marques de la venue du Messie. Ces signes d'ailleurs n'avaient pas existé avant notre Seigneur. Tobie avait bien recouvré la vue, mais c'était un exemple unique, et c'était l'archange Gabriel, Raphaël, qui l'avait guéri. Élie a bien ressuscité un mort, mais après avoir longtemps pleuré et prié. Notre Seigneur, lui, n'a qu'à commander, et quelle abondance de miracles. C'est presque à toutes les pages de l'Évangile que nous lisons des miracles accomplis par notre Seigneur. Si pour notre Seigneur, les miracles qu'il a accomplis et les prophéties qu'il accomplit aussi sont la preuve la plus forte et la plus sûre de sa messianité et de sa divinité, il faut bien avouer qu'aujourd'hui, les prophéties et les miracles ont mauvaise presse. C'est que le rationalisme est passé par là. Par rationalisme, nous entendons ce vilain tour de pensée pour qui la seule source de connaissance, c'est notre raison, rien de plus, notre raison naturelle, rien au-delà. Aucune révélation surnaturelle, aucun mode de connaissance qui dépasse notre nature. Dieu n'a qu'à se taire, aucune foi. Pauvre chimère indigne d'un homme cultivé. Tout ce qui dépasse la raison est décrété absurde, impossible, simple supercherie. C'est l'orgueil humain qui se dresse devant son Créateur. Rappelons-nous les paroles du socialiste Jean Jaurès. Toute la vérité, dit-il, qui ne vient pas de nous est un mensonge. Il poursuit. Si l'idée même de Dieu prenait une forme palpable, si Dieu lui-même se dressait au-dessus des multitudes, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le traiter comme l'égal avec lequel on discute, mais non comme le maître que l'on subit. C'est tout l'orgueil humain, tout l'orgueil de ces derniers siècles. Le rationalisme, en effet, ne peut accepter que Dieu intervienne dans le cours des choses humaines. La raison devrait se soumettre à plus fort qu'elle. Et donc, tout ce qui se rapporte, de près ou de loin, à une quelconque intervention extraordinaire de Dieu dans le cours des choses ici-bas, doit être rejeté impitoyablement, sans plus d'examen. C'est ainsi que vont être niés ou réduits à des faits purement naturels, tous les miracles que nous lisons au long des livres de la Sainte Écriture, que ce soit de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la traversée de la mer Rouge sera vue comme une heureuse coïncidence astrale qui a permis que la mer se retire et ainsi les Hébreux ont pu passer à gué. Et pas de chance, pour les soldats de Pharaon, cette heureuse coïncidence astrale était terminée quand vint leur tour de passer. Il en est de même pour le Nouveau Testament. Arrêtons-nous à deux exemples, la multiplication des pains et les résurrections qu'a opéré notre Seigneur. Pour les deux résurrections des pains, c'est tout simplement notre Seigneur qui a mis à l'aise ses convives. Ils avaient apporté de quoi manger, mais ils n'osaient pas sortir cette nourriture. Il a enlevé leur fausse honte. Voilà le miracle. Pour les résurrections, le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr ou Lazare, notre Seigneur n'a fait que les sortir d'un sommeil un peu profond, d'un coma, qui n'avait que les apparences de la mort, rien de plus. Toute trace de surnaturel a été implacablement supprimée. Et après un tel coup de sabre, vous comprenez qu'il ne reste plus rien de notre sainte religion. Si tous les miracles que contiennent la Sainte Écriture et l'histoire de l'Église sont expurgés, l'une et l'autre deviennent parfaitement incompréhensibles. Et du coup, c'est tout l'édifice de la foi surnaturelle qui s'écroule. Les dogmes n'y résistent pas. De fait, le miracle et la prophétie ont pour rôle de donner à la révélation surnaturelle ses entrées dans la raison et sa place dans l'histoire. Les âmes ont besoin d'être préparées à la foi surnaturelle par ces motifs, foi sans laquelle il n'y a pas de salut à espérer. Bien sûr, ce n'est pas le miracle ou la prophétie qui vont donner par eux-mêmes la foi. Émile Zola a bien assisté à un miracle à Lourdes, il l'a vu de ses yeux, mais il ne s'est pas converti. La foi est avant tout un don de Dieu auquel nous devons coopérer. Dieu ne nous violente pas. Et la foi est une adhésion de notre intelligence à la vérité révélée à cause de l'autorité de Dieu. Adhésion de notre intelligence à la vérité révélée à cause de l'autorité de Dieu. Le miracle, lui, par contre, et la prophétie, entoure la foi de l'extérieur. Et c'est le miracle et la prophétie, principalement, qui vont faire que la foi est crédible, que croire n'est pas un saut dans l'absurde. Dieu donne des marques de crédibilité. Il est raisonnable de croire. Il n'est pas absurde de croire. Les miracles et les prophéties, en effet, ne peuvent venir que de la toute-puissance de Dieu et de sa science infinie. Par là même, ils attestent l'intervention personnelle de Dieu et ils nous confirment la véracité de son enseignement. Et si ces moyens sont assurément merveilleux et adorables, car exclusivement divins, ils sont aussi en même temps extrêmement, éminemment populaires. Tous, jusqu'au plus petit, au plus faible, peuvent très facilement reconnaître que seul le Tout-Puissant est capable de les opérer. C'est là l'histoire de tant et de tant de conversions. Comprenons bien que le bon Dieu n'a pas jugé digne ni convenable de raisonner avec nous. Il a parlé, et comme il exigeait la foi, il a donné autorité à sa parole. Comment ? Non pas en homme, mais en Dieu. Par les œuvres de sa toute-puissance, par le déploiement de sa toute-puissance. Et la foi a été fondée non pas sur la sagesse de l'homme, mais sur la force de Dieu. Non seulement le Christ a fait des miracles, mais il a fondé la foi sur les miracles. Et il a mis dans l'Église, jusqu'à la fin des temps, la vertu des miracles. C'est-à-dire qu'il y aura dans l'Église des miracles jusqu'à la fin des temps. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à s'intéresser d'un peu près à toute l'histoire de Lourdes. C'est une succession ininterrompue de miracles, de guérisons opérées par Notre-Dame. Une autre attitude, plus sournoise, consiste à ne pas attaquer frontalement la possibilité du miracle, à nier d'un bloc que Dieu puisse faire des miracles. Elle consiste à reléguer au dernier rang l'importance du miracle dans les motifs de la foi. C'est alors l'expérience intime, un certain goût de l'âme, une inspiration personnelle qui doit primer et être la seule cause légitime et décisive de la foi. C'est là l'attitude de tous les clercs de tendance plus ou moins moderniste. Le miracle les gêne. À les entendre, le miracle ne serait plus adapté à la mentalité de l'homme moderne. Pour les réfuter, nous n'avons qu'à ouvrir le serment antimoderniste rédigé par Saint Pidis. Au deuxième paragraphe, nous lisons ceci. J'admets et je reconnais les preuves extérieures de la révélation, particulièrement les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la révélation chrétienne, de la religion chrétienne. Et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps et de tous les hommes, même à ceux d'aujourd'hui. Même à ceux d'aujourd'hui. Le but des ennemis de l'Église et des catholiques libéraux a toujours été de réduire la religion à une simple affaire intérieure, privée, qui ne doit se traiter que dans le secret de la conscience, sous peine de violer la sacro-sainte liberté de l'homme. Mais contre ces derniers, le miracle affirme sans embâge les droits de Dieu sur la société. Le miracle est un fait public, social. Derrière la défense de la possibilité du miracle, c'est toute la doctrine du Christ-Roi qui finalement est en jeu. Et c'est cela qui déplaît tant aux libéraux d'hier et d'aujourd'hui. Lors de la divulgation du troisième secret de Fatima, d'ailleurs incomplète, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, a trouvé le moyen de ne faire aucune allusion au miracle du soleil, miracle réalisé le 13 octobre 1917 devant plus de 100 000 personnes. C'est le plus grand miracle du Nouveau Testament. Pas une seule mention. Faire silence sur ce miracle diminue de beaucoup l'autorité de Fatima et son retentissement aussi public dans le monde est gravement diminué. De même, l'œcuménisme moderne ne permet pas de parler des miracles. Quand on dit que toutes les religions sont plus ou moins égales, le miracle gêne. Avec les miracles, seule la religion catholique apparaît immédiatement supérieure aux autres. Et de fait, elle apparaît comme la seule vraie, la seule d'origine divine. Où sont les miracles du talmudisme judaïque? Où sont les miracles de l'islam? Ceux du protestantisme? Poser la question, c'est déjà y répondre. De ces considérations, quelles résolutions personnelles prendrons-nous? Essentiellement, une plus grande générosité dans le service de Dieu. Si notre sainte religion est si assurée que Dieu n'hésite pas à faire parler sa toute-puissance pour nous confirmer ses dires, que ne sommes-nous plus généreux à le servir, à obéir à ses commandements, à faire ce qu'il nous a dit. Notre Seigneur ne pourrait-il nous appliquer, à nous, ce qu'il vient d'exclure de Saint Jean-Baptiste ? Ne serions-nous pas des roseaux, creux à l'intérieur, sans vie intérieure, vie de prière languissante, peu ou pas de lecture spirituelle ? Ne serions-nous pas des ombres ou des fantômes de catholiques qui, une fois la messe du dimanche passée, se traînent difficilement dans leur vie chrétienne? Ne serions-nous pas aussi comme le roseau, plus ou moins ballotté par le vent des opinions mondaines, un peu à la remorque des maximes et des modes de ce monde que notre Seigneur a maudit? Quelle musique écoutons-nous? Quels sont nos loisirs? Le monde n'a-t-il pas des entrées larges dans nos foyers par le film qui déverse à plein torrent l'esprit de ce monde perverti, un peu comme ferait un camion à ordures qui viendrait vider ses immondices en plein milieu du salon? Par l'ordinateur, le téléphone aussi, qui, loin d'être de simples moyens dont on se sert, sont des maîtres dont on est l'esclave et dont on ne sait plus se passer. Immaculée Vierge Marie, donnez-nous, vous que nous allons fêter dans 2 jours, la grâce d'être très généreux pendant cet avant, de vivre véritablement cet idéal de la foi que Dieu nous a donné, qu'il a confirmé par tant et tant de miracles. Faites-nous comprendre que notre Noël ne sera que le fruit des sacrifices et des pénitences que nous allons faire pendant cet avant. Faites-nous surtout pénétrer bien profond, au fond du cœur, ces paroles que vous avez dites à Lourdes. Pénitence, pénitence, pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.